Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour pour ce nouvel Micro Rebelle Hebdo en direct de nos studios de Liévin. Comme toujours, Micro Rebelle Hebdo, c'est des actualités sociales, économiques, des alternatives dans le bassin minier et au-delà. Je vous rappelle que nos émissions sont podcastables et téléchargeables sur notre site micro-rebelle.fr et rediffusées par nos amis de la France, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. Radio PFM 99.9 à Arras nous rediffuse chaque vendredi à 20h, le samedi à 7h30 et le dimanche à 14h. Radio Plus 104.3 à Douvrin, rediffusion chaque mardi à midi. Comme toujours, au programme aujourd'hui, l'agenda social-culturel, actualité, revue de presse, avec la chronique de Aurélie et des reportages. Je suis en compagnie de Luc. Bonsoir Luc.
Salut à toutes et à tous.
Et on va démarrer sans tarder par notre agenda social culturel qui démarre ce samedi 30 novembre par un événement qui nous concerne à Micro-Rebelle, c'est notre assemblée ouverte. On en profite pour vous faire une communication tout à fait chouette, c'est que Micro-Rebelle va bientôt disposer de nouveaux locaux. On va emménager au sein d'une maison des jeunes, la maison des jeunes Buisson à Lens, rue Léon Blum. Et c'est là que ce samedi 30 novembre, on va tenir notre assemblée générale mensuelle, comme chaque dernier samedi du mois. Donc cette maison des jeunes est juste à côté du lycée Robespierre et du collège Jean Jaurès. Donc on va en profiter pour visiter nos futurs locaux, et notamment avec un très très chouette studio, parfaitement bien isolé. C'est tout à fait des très bonnes conditions pour notre radio. Et on va échanger sur les possibilités de cet emménagement. Notamment, on va être, je l'ai signalé, juste au cœur d'activités lycéennes et collégiennes. Chaque midi, à cette maison des jeunes, viennent déjeuner des lycéennes, des lycéens notamment. Et donc, on va imaginer quel type d'initiative radiophonique on va être en capacité de réaliser avec elles et eux. Donc, cette assemblée générale, samedi 30 novembre, entre 10h et 11h30, à la Maison des Jeunes Buisson, donc les futurs locaux de Micro-Rebelle, rue Léon Blum à Lens.
Samedi 30 novembre également, il y aura à Arras une marche pour le climat, organisée par le collectif arrageois pour le climat. Cette marche est au départ de la place de la gare à 14h30.
Le mercredi 4 décembre, c'est un ciné-sandwich à l'espace Ronnie Cooter à Grenay à 19h. Le film qui nous est proposé, c'est « En guerre ». Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l'usine Perrin Industries décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. Donc après la projection, comme lors de chaque ciné-sandwich, le débat sera lancé en présence de Olivier Gorce, scénariste du film, et de représentants syndicaux, mercredi 4 décembre à 19h à l'espace Ronnie Cooter de Grenay.
Jeudi 5 décembre, grève nationale, les rendez-vous pour les manifestations en région. Manifestations évidemment contre la réforme des retraites. À Arras à 9h30, place de la gare. À Calais à 9h30, place de la mairie. À Boulogne à 9h30 également, à la Bourse du Travail. Et puis à Lille, manifestation régionale à 14h30 à la porte de Paris. Il y a des départs en bus à 12h30, place Foch à Béthune, 13h15, place du Cantin à Lens, 12h30, gare d'Arras. Et vous croiserez certainement les micros de Micro-Rebelle quelque part.
C'est certain, samedi 7 décembre, le bruit et la fureur. C'est un retour en archive sur la catastrophe minière de Liévin en 1974. En mettant en écho cette catastrophe avec d'autres catastrophes minières. C'est proposé par le cinéma Le Prévert, rue de Monceau-les-Mines à Arnes, à 18h, samedi 7 décembre, au tarif de 4 et 5 euros.
tout en haut du jazz, un festival itinérant de jazz dans le Pas-de-Calais. Alors c'est un festival qui a déjà commencé depuis le 7 novembre et qui se poursuit jusqu'au 2 décembre, notamment à Aix-Noulette, Béthune, Beuvry, Givenchy-en-Goël, Grenay, Lens, Marle-les-Mines, Mazingarbe. Pour les quelques dates qu'il reste, samedi 30 novembre, Marcine Mazeski et Jerry Rogiewski, c'est au Louvre-Lens. Vendredi 6 décembre, Father & Son à la Brasserie Saint-Germain à Aix-Noulette. Samedi 7 décembre, Greg Slap au complexe Agora de Drocourt. Vous pouvez trouver plus d'informations auprès de l'association Droit de Cité. Un numéro de téléphone 03 21 49 21 21. 03 21 49 21 21 21. C'est tout pour l'agenda de la semaine à venir.
Alors, suite à cet agenda, l'actualité au travers de la revue de presse. Alors, l'actualité cette semaine, hein, Luc l'a évoqué dans le cadre de l'agenda, elle est marquée bien évidemment par la perspective de la grève du 5 décembre avec les différentes manifestations que Luc vous a annoncées. Alors, ces dernières semaines, les mobilisations se sont multipliées dans de très nombreux domaines, l'éducation, la jeunesse, les transports, la santé, l'audiovisuel, etc. Le gouvernement est sous pression et craint que ces mouvements ne se généralisent. De là, il adopte une stratégie en trois axes. Premier axe, réduire la contestation, la réduire à un simple mouvement dans les transports pour défendre le régime spécial des retraites à la SNCF. Deuxième axe, lâcher un peu de lest, par exemple concernant la mobilisation dans la santé et notamment les hôpitaux. Et troisième axe, enfin, placer les réformes, et notamment la réforme des retraites, sous le signe de la justice et de l'équité. Pas sûr que cette stratégie fonctionne, tant le mécontentement est profond et tant le gouvernement Macron est perçu comme arrogant pour les pauvres et doux pour les riches et les puissants. Alors il reste bien sûr à décrypter ces mécontentements et aussi à décrypter ces réformes. Concernant les retraites, par exemple, il s'est tenu cette semaine au LAG un beau moment d'éducation populaire animé par Paul Masson. On y a retracé l'histoire de l'offensive contre les retraites depuis plus de 50 ans et le contexte dans lequel le gouvernement Macron inscrit aujourd'hui sa propre réforme. Autant d'éléments qui sont des armes, des atouts pour les luttes à mener. Par exemple, que faut-il penser du déferlement médiatique qui nous assure que l'on ne peut pas faire autrement que de travailler plus longtemps ? Parce qu'on vit plus longtemps ? La soirée animée par Paul Masson a permis de constater qu'en 50 ans, la richesse créée, notamment par les travailleuses et travailleurs, ce qu'on appelle le PIB, a considérablement augmenté. Et que, au final, à l'intérieur de cette richesse générée, la part prise par les retraites n'a pas du tout augmenté dans les mêmes proportions, loin de là. Et donc, si on adoptait une autre logique de répartition de cette richesse générée par le monde du travail, il n'y aurait vraiment pas de souci pour des retraites décentes pour toutes et tous. Ce n'est pas notre système de retraite qui est à bout de souffle, comme on voudrait nous le faire croire. Ce qui est à bout de souffle, c'est un système économique dont la finalité est une augmentation sans fin des cours de la bourse, permettant à un capitaliste français notoire, Bernard Arnault, d'augmenter chaque année sa fortune, qui atteint cette année la somme honteuse, indécente, de 100 milliards d'euros. Paul Masson a prévu de multiplier les animations autour de la réforme des retraites. Vous êtes dans un centre social, une mairie, une association ? Cette proposition peut évidemment vous intéresser. N'hésitez pas à solliciter Paul, par exemple, par l'intermédiaire de son site internet. Alors je vous parlais du déferlement médiatique visant à nous faire croire qu'on n'a pas le choix concernant cette question des retraites. On en a eu quelques exemples cette semaine dans la presse locale. Par exemple, dans La Voix du Nord, un article de Jean-Michel Bretonnier, l'ancien rédacteur en chef du journal. C'est dans la rubrique « Le débat du jour » en titre « Régimes spéciaux et universalité sont incompatibles ». Les explications de Jean-Michel Bretonnier. Le maintien des régimes spéciaux de retraite est incompatible avec une réforme créant un système universel. Du coup, les syndicats, partisans du statu quo, se gardent bien de défendre le principe d'un régime unique. S'ils voulaient être cohérents dans l'exigence d'un régime égal pour tous, il leur faudrait demander d'aligner toutes les conditions de retraite sur les plus favorables. Impossible, même en allant chercher l'argent là où il est, même en mettant fin du jour au lendemain à la moindre fraude ou optimisation fiscale. Cet extrait est assez révélateur. Pour Jean-Michel Bretonnier, même si on mettait fin à la fraude fiscale, on ne pourrait pas aligner les retraites sur un régime favorable à toutes et tous. Jean-Michel Bretonnier n'évoque ici que la fraude fiscale et se garde bien d'évoquer les gigantesques profits des entreprises françaises du CAC 40. Est-il dans son rôle ? En tout cas, il accompagne parfaitement les réformes libérales en cours. Il évoque par exemple dans le même article, je cite, « Le gouvernement qui a voulu cette harmonisation des situations pour plus de justice sociale et progressivement plus d'efficacité. » Et ce billet, ce débat du jour, se conclut par ces mots. D'ici au 5 décembre, le gouvernement devrait au contraire tout faire pour focaliser l'attention sur la quintessence de sa réforme des retraites, son universalité, afin de préparer la bataille de l'opinion qui ne fait que commencer. Fin de citation. Alors oui, la bataille de l'opinion ne fait sans doute que commencer. On peut d'ailleurs estimer que c'est dans les mobilisations, comme le 5 décembre, ou dans des soirées comme celle du LAG avec Paul Masson, que l'on pourra utilement confronter sa propre opinion avec celle d'autres personnes, d'autres travailleuses et travailleurs. On va continuer sur le même registre pour illustrer les propos que je viens de tenir. On est toujours dans la Voix du Nord et toujours sur la question des retraites. Le journal se fait ici la caisse de résonance du pouvoir. En titre, Macron critique une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Le sous-titre de la Voix du Nord, Emmanuel Macron a choisi la fermeté hier, à l'approche de la grève du 5 décembre, contre la réforme des retraites qui, selon lui, mobilise avant tout les salariés bénéficiant de régimes spéciaux d'une autre époque. L'article poursuit, ni plus ni moins, en reproduisant le discours d'Emmanuel Macron. Je cite « Je porte un projet d'ambition pour notre pays et je n'y renoncerai pas », a affirmé le chef de l'État. Il a décrit la journée de mobilisation interprofessionnelle du 5 décembre comme un mouvement dominé notamment par de grandes entreprises de transport avec des demandes catégorielles qui pénalisent le reste de la société. Embaucher de nouveaux jeunes dans le système historique, ça n'a plus aucun sens, a-t-il insisté. Je ne vais pas expliquer au chauffeur de bus d'Amiens que sa retraite n'a rien à voir avec celle d'un chauffeur de la RATP. C'est donc une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux, mais c'est l'engagement que j'ai pris devant les Français, a plaidé le chef de l'État lors d'une conférence de presse à l'issue d'une visite de 2 jours dans la Somme. Il a fustigé certaines forces politiques qui jouent le désordre et la coagulation. Il y a des gens qui disent que rien ne va et qui ne proposent rien, a-t-il martelé ensuite sur BFM TV. Il a jugé étrange un appel à la grève contre une réforme dont on ne connaît pas les termes exacts et mis en garde tous ceux qui essaient de jouer avec les peurs et prennent des responsabilités au regard de la démocratie. Le droit de manifester doit être respecté dans un cadre, celui de la non-violence. Tous ceux qui franchissent cette ligne sont les ennemis du droit de manifester. Toute formation politique, comme toute formation syndicale, s'honorerait à exprimer clairement ce distinguo, a-t-il répété. Le journal continue. Durant 2 jours, Emmanuel Macron a tout fait pour montrer que l'exécutif n'était pas fébrile à l'approche du 5 décembre. Une échéance qui pourtant inquiète de nombreux responsables de la majorité, précise néanmoins la Voix du Nord. La Voix du Nord poursuit. Au cours d'une succession d'étapes, Emmanuel Macron est retourné au contact de la population dans sa ville natale d'Amiens. Il a été sommé de s'expliquer lors de l'étape la plus délicate de son déplacement, le retour sur le site de l'ex-usine Whirlpool, devenu l'un des symboles de la casse sociale liée à la désindustrialisation. Le chef de l'État a enchaîné avec 2 bains de foule dans un quartier populaire du nord d'Amiens, dans une ambiance plutôt bienveillante. Venu inaugurer la première antenne France Service, qui regroupe plusieurs services publics, il a répondu à ceux qui l'interpellaient sur des problèmes de pouvoir d'achat. La veille, devant des étudiants, il avait déploré que la France soit un pays trop négatif. On a l'impression que si on s'écoute collectivement, si on branche la radio ou si on allume la télé, que tout est terrible, a-t-il déclaré en inaugurant le nouveau pôle universitaire d'Amiens. Fin de citation. On ne peut que souhaiter maintenant que la presse locale, dans sa couverture des mouvements sociaux, accorde autant d'importance à celles et ceux qui se mobilisent contre cette réforme. On aura l'occasion d'y revenir. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, les mobilisations sont nombreuses et multiformes. Par exemple dans la jeunesse, avec ce titre dans La Voix du Nord. Interpellation de lycéens mobilisés contre la précarité estudiantine. Depuis le début de la semaine, plusieurs jeunes garçons ont été arrêtés, notamment hier lors d'un rassemblement devant le lycée Henri Darras à Liévin. Extrait de l'article de La Voix du Nord. Jeudi matin, quelques 120 lycéens s'étaient réunis sur le parvis du lycée Henri Darras à Liévin. Ils entendaient manifester contre la précarité, notamment économique, de la vie estudiantine. Le 8 novembre, un étudiant de 22 ans s'était immolé par le feu devant le bâtiment du Centre Régional des œuvres universitaires et scolaires, le CROUS, de la Madeleine à Lyon. Dans un message laissé sur Facebook, il dénonçait ses difficultés à vivre au quotidien. Le mouvement liévinois, entre 7 et 9 heures, n'a entraîné aucune opposition avec la police, ni aucun blocage de l'établissement, mais à cette occasion, deux mineurs ont été interpellés, puis placés en garde à vue. Sur eux, les policiers ont découvert 2 litres d'essence. L'exploitation de leur téléphone portable a permis de lier cette possession à la manifestation du jour. Alors concernant les lycées de Lens, La Voix du Nord ajoute « Vers 13 heures devant le lycée Béal, une poubelle a été incendiée. L'auteur présumé de cet acte, repéré sur l'instant et identifié, a été interpellé le lendemain en milieu de matinée. Ce lycéen de Robespierre, âgé de 16 ans, a été placé en garde à vue, durant laquelle il a nié son implication, malgré plusieurs éléments de preuve. Le mois prochain, le jeune homme a rendez-vous devant la justice. » Fin de citation. Alors pour ce qui nous concerne à Micro-Rebelle, on n'a actuellement pas d'autres précisions que ces infos dans La Voix du Nord. Affaire à suivre donc. Place maintenant à Aurélie et à sa chronique.
Les réformes SNCF ont frappé très fort cette fois sur les usagers, notamment sur ceux du bassin minier. Arrêts supprimés, gare moins desservie. Certains usagers envisagent même de changer de gare, quitte à rouler 20 minutes de plus ou pire, aller directement en métropole lilloise et abandonner leur abonnement SNCF. En effet, moi-même, utilisatrice de la gare Bully-Grenet, j'ai appris il y a peu que dès le 15 décembre, de nouveaux horaires seront proposés aux usagers avec une annonce retentissante, la suppression des TER directs vers l'île Flandre. Donc il me semble que le matin, ce sont les trains de 6h57 et 7h58 qui sont concernés, c'est-à-dire en fait aux heures de pointe. Donc il s'agit de centaines d'usagers qui sont concernés par cette décision. Que faire? La SNCF propose une alternative, prendre un premier train vers Lens ou Béthune, attendre, puis reprendre un train en direction de l'île Flandre. L'Avenir de l'Artois a publié le témoignage d'Anaïs Souillard, utilisatrice de cette même ligne, qui, elle, est très embêtée par cette suppression. La Voix du Nord aussi annonce la suppression de 17 arrêts de gare en gare au 15 décembre, décision qui ne passe vraiment pas. Beaucoup de gares sont touchées, notamment celle de Mirecourt par exemple. À mon sens, nous étions déjà mal desservis dans la région en comparaison avec d'autres lignes SNCF vers la métropole lilloise. Cependant, on comprend bien, nous, usagers, que ce n'est pas pour notre bien-être mais celui du porte-monnaie dans l'entreprise. Apparemment, ces gares de proximité ne sont pas assez rentables pour les garder en vie. Pourtant, comme le souligne Anaïs Souillard, sur le terrain c'est autre chose puisque les TER sont toujours bondés à ces heures-là. Alors, soit ceux qui ont pris cette décision n'ont jamais pris le train en direction de l'île Flandre en TER direct avec nous, usagers, soit les bénéfices sont plus importants que les usagers eux-mêmes, ce qui est assez triste. Certes, nous usagers, nous plignons sans cesse, et j'exagère à peine, chers auditeurs, des retards courants de SNCF, mais cette décision n'améliore en rien la réputation de celle-ci. Peut-être qu'une hausse des tarifs aurait été préférable au lieu de cette suppression soudaine. Les gares qui ont été épargnées, comme Bully-Grenet, qui pourra tout de même desservir ses usagers, par correspondance, nous pouvons nous demander, sont-elles encore en danger? Une suppression de TER direct aujourd'hui et peut-être la suppression de la gare demain. Nos services publics diminuent tous peu à peu, les hôpitaux qui s'écroulent et qui, faute de moyens, comme l'hôpital de Lens, ne peuvent pas se reconstruire. Et à présent, les gares de proximité, les oubliés du système. Encore une fois, cela nous prouve que le système capitaliste compétitif n'apporte du bon qu'à ceux qui en sont à la tête. En effet, pour ceux qui subissent, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est la deuxième fois que le maire de Bully, comme d'autres j'imagine, envoie une lettre au directeur de la SNCF et à la région, et pourtant, aucune réponse, juste l'écho de dizaines de villes en colère. D'ailleurs, une pétition est en ligne jusqu'au 6 décembre sur change.org. Vous pouvez taper Bully-Grenet et vous trouverez, n'hésitez pas à la signer si vous êtes usager ou même si vous ne l'êtes pas et que vous supportez et que vous ne. Comment dire, que vous êtes contre cette réforme.
Merci à Aurélie, dont on avait enregistrer la chronique ce matin puisqu'elle ne pouvait pas être en studio avec nous ce soir. On va maintenant faire une petite pause musicale. Cloud Kicker, Unending Night. Cloud Kicker, Unending Night. Ici, un titre plutôt introspectif, alors que le reste de leur album, de leurs albums, est bien plutôt heavy metal. Vous vous en rendrez compte si vous allez écouter un peu de ce côté-là. On va maintenant entrer dans l'actualité locale des mobilisations sociales. Aujourd'hui, on est le Black Friday, à l'heure où on enregistre cette émission. Et justement, à Amazon Lovinplanque, c'est-à-dire à côté de Douai, une intersyndicale rejointe par ANV COP21 et les Amis de la Terre avait décidé de faire du Black Friday une journée de grève pour contester les méthodes managériales de la direction d'Amazon Lil One, comme on dit dans leur jargon. On a donc eu par téléphone Habib Latrèche, qui est salarié à Amazon, délégué du personnel, militant CGT. On va voir si on a le temps de tout écouter. L'interview est un peu longue et on aimerait également donner la parole à William Tournier, qu'on a également contacté par téléphone, qui lui est militant syndical chez Solidaire Sud Santé Sociaux plutôt, et qui lui était venu pour faciliter la rencontre entre deux milieux militants, les syndicats et les activistes écologistes.
C'est une intersyndicale avec CGT, FO, Sud. Ensuite, il y a des militants écologistes, donc ANV COP21, les Amis de la Terre, qui nous ont rejoints.
Et alors, est-ce que ça a été facile à mettre en place? Ça a été décidé quand, cette grève?
Le mouvement de grève, on l'a officialisé avant-hier, donc mardi, de mémoire, mardi ou mercredi.
Est-ce que tu peux nous rappeler, pour que les gens qui nous écoutent se représentent un petit peu, on n'a pas tous conscience de la réalité de ce qu'est Amazon. C'est combien d'employés
Sur notre site à Lovinplanque, pour l'île 1, c'est 1800 personnes embauchées. Là, sur le grand pic d'activité, on est, en comptant les intérimaires, il y a à peu près 5000 salariés. C'est les intérimaires qui viennent travailler pour Amazon. En temps normal, on est 2000 embauchés, avec quelques intérimaires à côté, quoi.
Est-ce que tu peux nous rappeler les motifs de la grève? Qu'est-ce qui vous a décidé?
Aujourd'hui, on s'est aperçu de plein de choses, en fait. Il y a 5 sites sur le site sur en France en centre logistique. Nous on est le site à Lille 1 Lille-Ouane, où il y a vraiment une répression. Déjà au niveau des salariés, par rapport au licenciement, et par rapport à tout ce qui se passe. Et les conditions de travail, à un moment donné, je vais être, voilà, on les connaît, on a des problématiques, il y a un mal-être qui s'installe. Amazon, en gros, c'est une pieuvre qui a ses tentacules. Elle nous tombe dessus et voilà. Et pour beaucoup de salariés, c'est soit ils quittent l'entreprise ou soit ils se font licencier.
Alors, tu parles de répression. Est-ce que tu peux nous dire comment elle se manifeste et contre qui?
Surtout contre les syndicats. Bah, certains syndicats. Beaucoup les syndicats revendicatifs et même les autres syndicats d'ailleurs. C'est de tous les instants. C'est moi, il y a un moment donné, moi je fais le boulot des ressources humaines. Je suis délégué syndical. Je fais le boulot des ressources humaines et je fais aussi mon travail professionnel, donc à l'intérieur de l'entreprise. On s'en frustré sur plein de choses et on est toujours voilà dans ce management insidieux où effectivement au premier abord on a l'impression que tout est beau, tout va nickel, mais derrière c'est le côté obscur en fait. Ouais, pour vous donner un truc qui m'a choqué une fois, nous on a une tour pour accéder là-haut. C'est le genre de manager qui attend dans la tour pour nous surveiller, pour tenir la rampe.
Donc il y a un climat de surveillance en fait, général.
De surveillance, voilà. Surveillance, flicage, isolement de certains salariés, surtout s'ils sont syndicalistes ou s'ils sont revendicatifs sans être syndicalistes, mis à l'écart de ces salariés-là. Là, du coup, Omerta, surtout sur notre site, à vase clos, il y a 5 sites, comme je disais tout à l'heure. Et nous, on est les avant-derniers. Avant Bob, et nous, on a l'impression que nous, sur notre site, ici, à Lovinplan, à Douai, on est pris pour des rats de laboratoire. On teste des choses sur nous, beaucoup dans le management, d'ailleurs. Il y a 5 ans, on avait une direction qui était, qui nous respectait plus ou moins. Là, moi j'ai 5 ans de boutique dans cette entreprise, et là, mais on n'est plus respecté, quoi. J'ai même un de mes RH qui m'a dit, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller sur un autre site. Sur Montélimar ou au jeu, quoi.
Tu nous as dit que ça s'était décidé en partie à cause de cette question de répression.
Ouais, il y a un tract.
Quelles sont les revendications de la grève et des grévistes?
Pour dénoncer le climat ultra répressif instauré par la direction. En effet, en à peine un mois, Amazon Lille-Ouane a sanctionné à tour de bras le bilan 7 mises à pied conservatoires, dont deux licenciements. En fait, on dénonce ce dégraissage. Nous sommes pas du bétail. Nous mettons fin à ce règne de la peur. C'est ça, en fait, qu'on reproche. C'est ce règne de la peur. La direction sanctionne comme bon lui semble. Qui est le prochain? La conjoncture actuelle de notre site ne nécessite plus de garder le caractère obligatoire des périodes de haute activité. Week-end obligatoire qu'on a en période de fête de fin d'année. Amazon Lille-Ouane s'en défend pourtant dans le même temps. Il modifie l'organisation du travail pour absolument conserver sa notion obligatoire. Que démontre la direction par ses agissements, sa volonté toute puissante de respect de notre santé et de notre vie privée n'est pas une donnée numérique. Sur tous ces points, nous demandons une négociation ouverte avec la direction. Voilà, le vendredi noir qui tue l'espoir, Black Friday, une année de plus, ça a dérangé. On avait déjà pas trop peur avant, mais on les respectait un peu plus parce que voilà, on était dans une optique où on essayait de dialoguer. Mais là, dans un premier temps, on a plus peur, mais il n'y a même plus de dialogue. Donc du coup, oui, on veut bien dialoguer, on ne peut pas dialoguer avec des personnes qui ne veulent pas communiquer et dialoguer avec nous. C'est pas possible. Ça marche pas que dans un sens. Et c'est ce qu'on leur reproche aussi.
Et alors, quelles sont les revendications que vous avez posées aujourd'hui?
Nous, les revendications, c'est déjà sur les licenciements des salariés. Certains licenciements, ils nous ont pas pris en compte, ils nous ont pas informés. Nous, on se retrouve avec des salariés qui partent et nous, les syndicats, on se retrouve à constater que il y a une forme d'impunité, quoi. On fait l'organisation comme on veut. Là, on avait un caractère obligatoire sur les week-ends, mais à un moment donné, par rapport aux commandes, il n'y avait pas assez de commandes. Mais les salariés, eux, pensaient venir parce que c'était un week-end à caractère obligatoire. Et lorsqu'ils viennent dans ce week-end, on leur dit « Non, il n'y a pas assez de travail, tu peux repartir chez toi. » « Oui, mais moi, j'avais prévu mon week-end obligatoire. » Donc, à un moment donné, les salariés ont une vie privée, quoi. C'est déjà difficile de s'organiser pour retravailler en plus à son week-end. Mais en plus de ça, quand on n'a pas besoin de toi, on te dit tu peux partir. Il y a un manque de respect et il y a aussi un manque d'organisation à leur niveau à eux.
Et concernant l'organisation, la vôtre, vous étiez combien aujourd'hui ?
Il n'y a pas eu de rapport de force. On a été, alors je parle en termes syndicats, on était une trentaine de personnes. Et à côté, il y avait les militants écologistes qui étaient largement plus nombreux que nous. Il y avait une cinquantaine de militants écologistes. Bon, donc on était à peu près une centaine. Dans le plus gros de la journée, vers 9h, 10h, on était à peu près une centaine de personnes.
Et est-ce que vous avez obtenu quelque chose ?
Rien du tout. On a demandé de les rencontrer. Et la situation par rapport à ce que voilà, et donc du coup non, ils veulent pas nous rencontrer. On n'a pas le droit de bloquer, on n'a pas le droit de filtrer. Nous on demandait juste de filtrer. Chaque année on fait ça, chaque année en fait. C'est pas la première grève qu'on fait, et chaque grève ça se passait bien. Potentiellement on avait le droit de filtrer au moins les camions pour dire voilà, on n'est pas content, et que ce soit significatif. Là on avait ni le droit de tracter ni le droit de filtrer. Bah, il n'y a le droit de rien faire, quoi, en fait. Et c'est ultra répressif. C'est, moi, voilà, j'ai deux, trois années de militantisme syndical. C'est la première fois que je vois ça. C'est incroyable.
J'aimerais revenir sur la question des conditions de travail. Tu l'as un peu dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est obscur. Et je pense que c'est obscur pour beaucoup de gens. Est-ce que tu peux nous parler un peu... hormis là cet épisode de grève, et je comprends bien la difficulté de l'organiser, comment ça se passe au quotidien chez Amazon ?
On arrive au matin. Alors moi, par exemple, quand j'arrive au matin ou de l'après-midi, on arrive, on dépose ses affaires. Moi, je fais tout ce qui est emballage carton, donc je suis packager. Donc du coup, j'assemble les cartons, je mets les articles dans les cartons. Je prépare les colis, en fait. On est amené à être aussi polyvalent. Quand on arrive, il y en a un brief de 5 minutes, et voilà, il y a le manager qui nous dit voilà, les safety tips, problèmes de sécurité, voilà, les trucs, s'il y a du have fun, oui, il y aura des gâteaux ou machin. Bon, là, il y en a de moins en moins. Et après, il y a l'échauffement musculaire qui dure très, 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 très vite, quand il y a de la musique, parce que des fois, il n'y en a pas. Et après, ben voilà, le travail commence. Alors moi, par exemple, si je fais sur mon poste de Pâques, voilà, je commence à 13h35, 13h35. Moi, en étant délégué, on me prend pas trop la tête quand j'ai envie de boire un verre d'eau ou aller parler à quelqu'un. Là, j'y vais. Ben après, des fois, on se rend compte que, ouais, au niveau des autres salariés, surtout des intérimaires ou des nouveaux embauchés, ah oui, t'as eu un middle time, donc un temps d'arrêt, tu peux m'expliquer pourquoi. Et après 18h, une demi-heure de pause, après on reprend un autre brief, très court d'ailleurs, pour expliquer qualité, qu'est-ce qui s'est passé, ou genre de choses. Après un travail jusque 20h45. C'est une tâche vraiment monotone. Quand on est par exemple au Pâques toute la journée, voilà, on fait toujours les mêmes tests, on est toujours en station debout. Donc forcément, si on est en debout, on a envie de marcher un peu, c'est dégourdir. Voilà, c'est très difficile, quoi.
Et j'imagine aussi qu'il y a des procédures de contrôle, des exigences, des quotas, tout ça à respecter. Comment ça se passe ?
Bah déjà, avant de rentrer sur le floor, donc l'entrepôt lui-même, il y a un ce qu'on appelle un screening. Donc le screening, c'est là où c'est un peu comme dans les aéroports où on passe une portique pour si ça sonne, bah, surtout pour les vols. Donc il y a un garde de sécurité qui est là, si ça sonne, bah, il te demande de venir vers lui, il te passe à la raquette, et voilà, c'est process Amazon. C'est plus ce management qui est insidieux où ouais, effectivement on va peut-être te regarder ou si jamais voilà il y a une problématique au niveau RH ou machin, bon bah on sent que les salariés sont tendus. Il y a beaucoup de salariés qui sont démotivés, qui viennent me voir, qui me disent non, Habib, moi j'en peux plus, je vais faire The Offer. Alors The Offer, c'est un programme pour partir de l'entreprise, des gens qui en peuvent plus. Amazon n'est pas une entreprise qui est faite pour être durée, mis à part si on évolue un peu plus, si on devient lead ou manager. Mais sinon, non, c'est une entreprise où on est fait pour partir, dégager, voilà, merci, au revoir, quoi.
Donc il y a un turnover qui est entretenu. Oui. Joint cette question à une autre, qui est que dans un de vos communiqués que j'ai pu voir sur les réseaux, il était aussi question de harcèlement.
Ça dépend. Alors, c'est harcèlement et harcèlement au niveau management qu'il y en a. C'est surtout par rapport à pousser les salariés à une certaine pression insidieuse où on va à un moment donné, des fois deux managers ou deux leads vont venir te voir. Et surtout, ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand il y a un accident de travail où ils vont poser plein de questions et que ça s'est passé comment, et comment ça s'est passé pour voir si vraiment effectivement c'est pas un faux accident de travail. Et généralement, c'est un vrai accident de travail où vraiment il y a un problème médical où ça va pas du tout. Et un genre d'harcèlement, on leur dit oui, mais t'es sûr qu'il y a eu ça, machin. C'est fait de façon insidieuse pour dire bon, bah si t'es sûr que ça s'est passé comme ça ou genre de choses. Donc voilà, on essaie d'intimider les gens en fait. Donc ça marche pour certains, mais ça marche pas pour d'autres. Mais voilà, il y a toujours cette forme de management qui est pas juste. Voilà.
J'ai pu lire également qu'il y avait eu un changement dans la direction. C'est ça aussi qui a joué sur l'envie de faire grève.
Alors le changement, ça fait un moment qui a lieu. En fait, on est toujours sur la même direction depuis 5 ans. Ou voire 4 ans en fait, parce que la première année moi je suis arrivé, j'ai connu la première année où la première direction où ces gens ils ont évolué, ils sont partis ailleurs et on nous motivait, il y avait le fameux hard work, have fun, make history. Il y avait le hard work, il y avait du have fun, et au bout d'un an le make history il est parti quoi. Le make history on l'attend toujours quoi.
Ça signifie quoi vraiment, s'il te plaît?
Make history, c'est à dire fait l'histoire. Oui, pour Jeff Bezos ou d'autres dans oui, ils font l'histoire. Oui, ça y a pas de problème. Mais les salariés en même, ils font rien du tout. Si c'est le slogan qui est affiché en haut du screening, donc des portiques où c'est marqué hard work, travail dur, have fun, amuse-toi, make history, fais l'histoire. Mais hard work, c'est y a pas de problème. Travail dur, have fun. Ah oui, de temps en temps, il y a un peu d'amusement. Moi, j'ai envie de dire un peu d'enfantillage pour désinfantiliser un peu. Mais le mec qui sourit pour les salariés, on l'entend toujours. Et moi, je pense qu'il n'est pas prêt d'arriver. Moi, j'ai envie de dire à fun, plutôt be a slave, quoi. Hard work, be a slave et not history.
Tu as cité Jeff Bezos. Qui est quand même la personne la plus riche du monde. Comment vous vivez-vous l'écart entre ce que vous vivez au travail, les salaires mirobolants de...
C'est un fossé. Là, il s'amusait à faire des dons. Alors, je crois que c'est aux États-Unis où, effectivement, il donne une cacahuète. Je ne sais plus, c'est 200 millions. Je ne sais plus ce qu'il a donné. Mais cet argent, donne-le aux salariés. Donne-le à ton groupe. C'est un groupe énorme. Amazon, il est quasiment dans je sais pas combien de pays. Il s'installait au Moyen-Orient, je sais pas où. C'est mondialement, c'est une multinationale, mais qui veut faire en sorte qu'il pèse tellement le poids dans, par exemple, chez nous, dans notre région où le bassin minier, effectivement, c'est un bassin où il n'y a pas beaucoup d'emplois, mais où on voit qu'effectivement, les salariés sont pas vraiment respectés et ils ont du mal à recruter du coup. Et ça, c'est un peu leur faute quoi.
Et sur toute cette richesse, vous avez un intéressement?
Oui, on a un intéressement qui est pas terrible. On a une prime à participation. On a 13e mois. Et justement, là, j'ai des salariés, ils m'ont appelé tout à l'heure, ils ont pas reçu leur 13e mois. Donc oui, c'est bien de nous dire qu'on a un 13e mois, mais il faudrait le payer, le 13e mois. Voilà. Et on est sur une base au plus haut 12 euros de l'heure, à peu près. Un peu plus du SMIC. Moi, je suis à 1400 par rapport à, à peu près, peu de choses près.
J'élargis un peu la question. J'ai pu voir dans une vidéo postée aujourd'hui une banderole sur laquelle il était écrit quelque chose, si je me rappelle bien, du genre ouais. Amazon détruit l'emploi et le climat. Alors, je précise d'abord concernant l'emploi. Amazon se targue quand même, tu viens de le dire, d'être dans un bassin minier où justement il n'y a pas d'emploi et donc de fournir de l'emploi. Donc là, il y a un paradoxe.
Oui, carrément, il y a un paradoxe en fait. C'est là où, oui, on est là en termes d'emploi. Moi, je vais reprendre juste les paroles du secrétaire numérique au gouvernement, M. Mounir Marchoubi, qui a dit que pour Amazon, pour un emploi créé, deux emplois sont... En parlant de deux autres emplois, donc que ce soit un emploi local ou un autre emploi, un emploi à Amazon créé, deux emplois sont supprimés.
Donc c'est
soit dans la logistique ou dans autre chose.
Par rapport au petit commerce peut-être aussi.
Voilà, tout à fait. Par rapport au petit commerce, par rapport aux petites startups qui travaillent peut-être dans la même chose ou voilà. Et c'est pour ça qu'on dénonce ça aussi. C'est bien beau de dire voilà, on crée de l'emploi et tout, mais c'est de l'emploi précaire en fait. C'est vraiment de l'emploi précaire. On n'est pas sur quelque chose où les gens ils peuvent s'établir ou on peut être dans l'évolution. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. Ou on fait croire qu'on est dans ce schéma-là, mais non, en fait non. C'est pas cette position-là.
Et par rapport au climat?
C'est par rapport au numérique, c'est par rapport à toutes ces choses. Mais en fait, du coup, en fait, ça rejoint ce que les militants écologistes pointent du doigt. C'est qu'en fait, elle se targue, voilà, tout ce qui est envoi, transport, camion, ou voilà, c'est pas écologique du tout, quoi. Et en fait, socialement, économiquement et au niveau sociétal ou je sais pas comment dire au niveau environnemental, oui, alors on s'aperçoit que ça pose des problèmes, ça pose des problématiques.
Et également sur cette même banderole, il était écrit stop à l'implantation. Parce qu'il y a un projet de s'agrandir, oui, à Lovinplan, que d'être encore plus grand,
non,
et ça te paraît pas faisable?
Non, en fait, non, pas sur notre site, parce que lui, là, il est déjà établi, mais c'est plus sur les autres sites, parce que là, c'est une banderole des militants écologistes, donc eux, ils sont sur la surproduction. Donc, ils contestent ça et que ça s'établit trop, là, il y a un mètre, dans les réunions qu'on nous dit, voilà, il est potentiellement, on nous informe pas à Bretigny, on l'a dit à la dernière minute, lorsque les travaux commençaient. Donc là, il y a Bretigny, à moitié robotisé, là, il y a un Metz qui va s'ouvrir. Après, j'ai entendu parler de Lyon, ce genre de choses. À un moment donné, je sais pas, même d'autres multinationales se posent des questions. Ça peut être dangereux pour Carrefour ou d'autres entreprises. Mais pas dangereux. Moi, je suis salarié de l'entreprise, donc je vais pas dire oui, c'est pas bien, il devrait fermer. Non, au contraire. Il nous donne de l'emploi. Il nous donne notre paye. Mais on est vraiment pas dans un schéma où on pourrait se dire voilà, l'entreprise fait des choses bien, mais vraiment on est plus dans, comme dirait mes ressources humaines, on est plus dans il faut livrer le client, mais des fois je me pose des questions, est-ce que c'est le client qui vous importe ou est-ce que c'est les investisseurs? C'est cette question là qu'on se pose.
Justement, par rapport aux clients, est-ce que l'idée de faire grève le jour du Black Friday, c'est aussi de les interpeller sur tout ce que ça peut mettre en danger, tu l'as dit, en termes d'emploi, en termes de climat, le fait que les gens, maintenant, beaucoup de gens ont pris l'habitude d'acheter tout un tas de choses sur Amazon, voire essentiellement sur Amazon.
Et c'est ça, parce que là, il y a un article sur les articles invendus. Ça a été annoncé apparemment ce matin, où il y aura un projet de loi où effectivement par rapport aux invendus ou qui partent en discussion en fait, où voilà, il va avoir un système d'Amazon pour automatiser les dons. Donc les articles qui étaient détruits auparavant ne seront plus détruits, donc ils seront mis de côté pour pouvoir les donner. Voir le système, comment le programme il va se mettre en route. Mais donc du coup voilà, ce sera fait autrement. Mais à quel prix? Ça fait 10 années. Moi je parle de mon syndicat, la CGT, ça fait 6 ans qu'on est sur ce projet-là, et c'est seulement maintenant qu'on se pose des questions. Alors qu'à chaque fois on dit les choses, on dit ça, il y a ça qui fonctionne pas, et on se réveille, voilà, peut-être 5 ans, 6 ans après, quand vraiment on est au pied du mur, puis c'est, ça passe dans les médias, ou ben, voilà, et voilà, Amazon n'aime pas, voilà, quand il y a de la mauvaise pub.
Oui, je me rappelle qu'il y avait, je crois, 2 millions de tonnes d'objets détruits,
ouais,
par,
ouais,
Amazon.
Sur l'émission capitale. Oui.
Toi, personnellement, qu'est-ce que tu attends pour la suite?
Un réveil des salariés. J'ai un espoir, parce que c'était pas suivi au niveau des salariés. Donc, j'espère que les salariés vont se réveiller un petit peu plus. Et après, personnellement, oui, j'attends que l'entreprise nous considère plus, et puis qu'elle nous écoute un peu plus, qu'elle dialogue un peu plus, qu'elle fait pas de répression bêtement, inutilement, cet acharnement ultra répressif. Moi, j'aimerais quoi là, qu'on parle de, par exemple, de notre site à Lille 1, mais qu'on ait même plus besoin de faire grève pour dire notre mécontentement. Moi, voilà, je suis là depuis 5h du matin, je me légèle, là, je me caille. Mais ça m'enchante pas. Moi, ça m'enchante pas de faire ça, en fait. Mais vraiment. Mais on est obligé de le faire pour, effectivement, dire que ça ne va pas, que ça ne fonctionne pas. Et c'est ça le problème.
Bon, là, on dresse quand même un constat négatif sur ce qui se passe à Lovinplanque, les conditions de travail, la précarisation, difficulté, ouais, de dialogue, un managériat insidieux. Est-ce que tu as déjà pensé à toi à partir? Et non, à l'inverse, oui. Pourquoi tu restes?
Pourquoi je reste? C'est mon investissement syndical, peut-être, qui me fait tenir encore à Amazon. Ouais, j'y crois encore, en fait. Voilà. C'est juste, c'est pas que ça, c'est moi aussi mon investissement, ma carrière professionnelle. Parce que, voilà, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'avoir une fiche de paie, d'avoir un salaire. Mais, voilà, ouais, c'est surtout ça. Moi, j'ai jamais été, j'en remercie grandement Amazon, mais c'est grâce à Amazon que je suis devenu syndicaliste, en fait. Si je partais d'entreprise, voilà, ce serait un point positif que je pourrais avoir.
Habib Latrèche, salarié à Amazon, délégué du personnel et militant CGT. Aujourd'hui, Black Friday, journée symbole d'un consumérisme outrancier, était organisé par une intersyndicale CGT Sud EFO, une journée de grève sur le site d'Amazon à Lovinplanque. On va maintenant écouter William Tournier, également syndicaliste, qui était venu pour essayer de favoriser la rencontre entre les syndicats et des militants écologistes. Il va en parler tout de suite.
Moi, je m'appelle William, je suis représentant, donc je suis syndiqué à Sud Santé Sociaux, et pour le coup, j'ai été mandaté par l'Union départementale solidaire, donc qui est l'organisation fédérale des Suds. Et donc mon rôle principal aujourd'hui, c'était principalement de faciliter la rencontre entre deux collectifs militants assez aux cultures différentes, qui étaient les collectifs de désobéissance civile et écologistes, et les syndicalistes, les sections syndicales d'Amazon. Alors, notamment celle de Solidaire, mais aussi celle de la CGT et de Force Ouvrière. Voilà, d'essayer de faire en sorte que ces trois cultures militantistes se rencontrent, se racontent et puissent créer des nouvelles stratégies pour qu'on arrive à gagner des droits, enfin.
Et comment s'est passée cette rencontre? Qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place pour que ça fonctionne?
Eh ben, on a notamment mis en place des animations, on a essayé de mettre un cadre avec des temps, des mini-temps, des mini-âgés sur le point de blocage, et puis des espaces de rencontre où on a essayé vraiment de pousser à ce qu'il y ait des échanges avec des groupes justement non mixtes, et ça a été plutôt réussi de ce côté-là. Par contre, on dénote que ça a fait très, très, très peur au gouvernement et à la hiérarchie d'Amazon, qui a du coup fait énormément de désinformation, c'est-à-dire qu'elle a en gros présenté aux salariés, les écologistes, comme des horribles extrémistes qui allaient détruire toute leur entreprise. Donc pour ça qu'il y a eu les maîtres chiens, qu'il y a eu tout ça, et beaucoup de désinformation, alors qu'en réalité, c'est notamment des gens qui s'appuient sur le consensus non-violent et qui sont plus proches, effectivement, d'une posture non-violente et tout à fait en respect des conditions des travailleurs. C'était eux, d'ailleurs, qui donnaient le là, et moi, j'étais un petit peu là pour, effectivement, qu'on soit bien sur cette idée que c'était les travailleurs concernés qui étaient les premiers à décider. Donc là-dessus, ça s'est vachement bien passé. Par contre, effectivement, ça a fait très, très peur en face, et on est dans un appareil répressif massif, où on n'avait même plus le droit d'exister, on n'avait plus le droit de filtrer, on n'avait pas le droit de faire des actions, forcément, on n'avait pas le droit de diffuser des tracts, on n'avait même pas le droit de faire un feu dans des tonneaux tout sécurisés sur de l'air brouillé. Donc, en fait, ça a surtout créé une grosse crispation en face, qui nous indique plutôt que c'est la bonne voie à suivre.
Et donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a eu une espèce de propagande en interne chez Amazon.
Même plus qu'une propagande. Il y a eu des courriers qui ont été diffusés, des maîtres chiens qui ont été embauchés et 30 agents de sécurité en plus en renfort. Alors, sous prétexte de protéger l'entreprise et les travailleurs des individus extérieurs.
Habib nous parlait quand même de la difficulté de mobiliser les salariés d'Amazon. Syndiqué ou pas d'ailleurs, bon, on sait aussi que l'emploi par intérim forcément rend impossible la mobilisation. C'est quoi ton point de vue, toi, là-dessus?
C'est pas impossible, parce que la preuve, c'est qu'il y avait des représentants syndicaux de la déco, il y avait des intérimaires syndiqués, donc c'est en train d'arriver. C'est difficile, parce que l'intérim a créé justement la division dans les statuts de salariés, et donc notre enjeu, et notamment à Solidaire, mais je pense que c'est pareil sur les autres syndicats, c'est maintenant de développer un syndicalisme qui touche une nouvelle forme d'emploi. Là, on parle des intérimaires, mais aussi des auto-entrepreneurs, de toutes ces zones grises dans lesquelles les employeurs nous ont enfermés depuis quelques années.
Est-ce que tu peux aussi nous donner ton point de vue, toi, sur la question de l'emploi? Et je pense notamment en fait que tu as essayé, de, comme tu l'as dit, de faire cohabiter, faire se rencontrer deux cultures militantes différentes, c'est-à-dire d'un côté des écologistes qui verraient plutôt d'un bon œil la fermeture de sites comme Amazon,
ouais.
Et d'un autre côté, les salariés pour qui ça reste un moyen de gagner un salaire.
Oui, sauf que dès qu'on a discuté un petit peu et qu'on a fait un tout petit peu d'éducation populaire, heureusement, c'est un peu mon boulot, donc on a réussi à faire un peu des dispositifs comme ça, où on s'est raconté, en fait, ce qu'on se disait derrière les mots. Et en réalité, les employés d'Amazon disent la même chose que les mouvements ouvriers et féministes depuis longtemps. Un emploi, non merci, un salaire nous suffit. C'est-à-dire que vraiment, ce qui les emploie le plus, c'est un salaire. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, l'emploi, finalement, c'est pas tant le problème. La question, c'est celle du travail, de la dignité au travail, du fait de pouvoir s'accomplir dans un métier, d'être reconnu et valorisé pour ça. Et en fait, il y a personne qui est contre ça. La question, c'est qui est l'employeur et est-ce qu'à un moment, on a vraiment besoin de ces employeurs? Et c'est là où on arrive à un nouveau questionnement, et je pense qu'il y a une réponse qui commence à se tisser, c'est que les écologistes veulent changer de monde et changer de système de production. Et il y a de grandes chances, comme si on s'appuie sur l'exemple de la Skopti, qui était anciennement le groupe Elephant à Gemenos, c'est qu'une fois que les travailleurs se sont réappropriés l'outil de travail, ils ont viré le parasite qui est l'employeur qui leur ponctionne le profit, et ben une fois qu'ils peuvent se décider ensemble de ce qu'ils font de leur outil de travail, souvent, et la preuve avec la Skopti, ils vont vers les options écologiques. Et ils vont se rapprocher de petits producteurs avec des produits dont on sait d'où ils viennent, et remaîtriser complètement la chaîne de production et ses conséquences. Et c'est ça le seul enjeu réel, c'est de redonner le pouvoir aux travailleurs et de maîtriser leurs outils de travail. Donc l'emploi, c'est une impasse. Ce qu'on veut, c'est plus de travail et moins d'employeurs. Donc plus de travail libre et plus de travail en coopérative. Et quand on parle de ça avec les salariés, ils se rendent compte que jamais ils sont posés cette question-là. Parce qu'on envisage toujours beaucoup plus facilement la fin du monde que la fin du capitalisme. Et c'est ça, en fait, qu'on est tous confrontés. C'est oui, tout le monde veut un salaire, tout le monde veut une dignité, mais concrètement, à quel prix? Et certainement pas au prix des conditions de travail que leur impose Amazon.
Tu as parlé d'ateliers mis en place avec des méthodes d'éducation populaire. Ouais. Est-ce que là, aujourd'hui, il y a des pistes intéressantes qui ont été soulevées pour un avenir peut-être local, hein, mais tout de même?
Complètement. C'est là, on est parti sur l'idée de recréer des espaces d'assemblée générale avec un cadre, donc animé, avec des méthodes, pas juste notre en rond et puis cracher notre colère. Il y a eu l'idée aussi de mettre en place des ateliers de désintoxication de la langue d'Amazon, donc parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un poste qui avait un métier cohérent et en français. qui s'appellent tous par des noms incroyables que personne comprend en anglais, en américain, avec des sigles. Et en fait, pour ça, on a des outils, par exemple, avec des intoxications de la langue de bois qu'on va adapter à Amazon avec un grand plaisir. Et les salariés sont très preneurs. Et pareil, une vraie assemblée générale en mode animé avec des espaces en petits groupes, en grands groupes, des allers-retours. Là, tout le monde est demandeur, justement, pour analyser ce qui s'est passé aujourd'hui et puis justement ne plus se faire avoir. Parce que là, concrètement, on avait un rapport de force qui est monté très très fort, auquel on n'était pas préparé. Et en fait, maintenant, on n'a plus le choix. On va devoir le penser.
D'accord. Tu vois, toi, cette journée de mobilisation d'un plutôt bon œil, j'entends par la fin, ou plutôt tu t'en tires un bilan positif.
En mi-teinte. Vraiment en mi-teinte. C'est-à-dire, d'un côté, ce qui est très positif, c'est qu'on a permis une alliance et une rencontre entre des collectifs militants qui ne se parlent pas, qui ne se côtoient pas et qui n'évoluent pas dans les mêmes espaces sociaux. Milieu urbain, milieu rural, milieu ouvrier, milieu corps intermédiaire de centre-ville, etc. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est la victoire. Par contre, la défaite, c'est qu'en réalité, on n'a pas pu mettre en place les stratégies. Et pourtant, il y avait beaucoup, avec une vraie réflexion, avec trois scénarios et plein de choses. Parce qu'en face de nous, on a eu une police sans pitié, on n'a eu aucune possibilité de dialoguer. Et on voit très bien qu'il y a une forte pression derrière, de la part d'Amazon et de la part de la préfecture, qui est complètement poreuse aux revendications de ces grosses entreprises.